VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 1er avril 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Le président américain Joe Biden puise 1 million de barils par jour dans les réserves stratégiques de pétrole pendant 6 mois.
Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays dits inamicaux, qui refuserait de payer en rouble, tandis que son armée se regroupe en Ukraine.
Mali, le secrétaire général de l'ONU appelle l'armée et ses soutiens étrangers à respecter leurs obligations internationales lors des opérations antiterroristes.
Antonio Guterres a simultanément accusé les terroristes d'exactions contre les populations civiles au Mali.
Le Niger appelle le Nigeria à aider à créer une force militaire régionale contre les djihadistes du Sahel.
Le Conseil de sécurité de l'ONU crée en Somalie une nouvelle force de maintien de la paix conduite par l'Union africaine.
Ne manquez pas dans ce journal notre page sport ainsi que la minute éco.
Pour l'instant, le journal.
Ici à Washington, le président Joe Biden a promis hier de soulager les ménages américains confrontés à une hausse du prix de l'essence. Il a annoncé qu'il va puiser dans les énormes réserves pétrolières du pays. Le point avec Ginny Capomovilla.
Plus de 180 millions de barils vont être injectés sur le marché au cours des 6 prochains mois, soit 1 million de barils par jour, a annoncé hier le président Joe Biden. Soulignant la durée que prendrait l'augmentation de la production pétrolière, le président indique qu'il s'agit d'une transition en temps de guerre, blâmant son homologue russe Vladimir Poutine. Les revenus de la vente de pétrole serviront à réapprovisionner les réserves stratégiques, a-t-il détaillé. Il a aussi critiqué les compagnies pétrolières qui, selon lui, s'assoient sur leurs bénéfices records au lieu d'augmenter la production sur le territoire américain.
Les pays de l'OPEP ont quant à eux ignoré les appels à alléger la pression sur les prix en annonçant sans surprise une nouvelle ouverture modeste de leur vanne d'or noir. Sur le terrain, en Ukraine, l'armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques, ont estimé Kiev et l'OTAN hier. Et selon le porte-parole du Pentagone, John Kirby, le recentrage de l'effort de guerre russe sur le Donbass et dans l'est du pays, où les forces russes feront face à une armée ukrainienne aguerrie, laisse présager un conflit prolongé qui pourrait durer des mois.
Pour sa part, le président Biden s'est dit sceptique quant à ses annonces de Moscou sur un retrait partiel de ses troupes pour concentrer l'offensive sur la région du Donbass. M. Biden a par ailleurs estimé que son homologue Poutine semblait s'isoler. Il a dit qu'il y a des indications selon lesquelles M. Poutine a limogé ou placé en résidence surveillée certains de ses conseillers tout en disant ne pas avoir de preuves irréfutables.
D'autre part, les autorités ukrainiennes ont annoncé hier que les troupes russes ont quitté la centrale de Tchernobyl qu'ils occupaient depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février en amenant des otages.
Le président Poutine a annoncé que dès le 1er avril, les acheteurs de gaz russe de pays qualifiés d'inamicaux devront avoir des comptes en roubles, faute de quoi la Russie ne les livrera pas. Les Européens refusent le paiement en roubles exigé par Moscou, selon le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, le gouvernement a réagi à la situation de l'ancien président Roch Kabore, dont la CEDEAO exige la libération immédiate. Il estime qu'il faut mettre M. Kabore en sécurité. Réaction également du gouvernement burkinabé concernant une éventuelle coopération avec la Russie pour faire face au terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le gouvernement du Burkina Faso dit prendre acte de l'analyse de la situation faite par les chefs d'État de la CEDEAO il y a une semaine à Accra, ainsi que leur volonté de nommer un médiateur pour le Burkina. Concernant le retour de l'ancien président Roch Kabore dans sa résidence familiale, le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo affirme que des concertations sont en cours entre les différentes parties. Deux résidences ont été retenues, celle de Ouagadougou et celle de la Padoua. La résidence choisie sera dotée de dispositifs sécuritaires adaptés à son rang, sans préciser si Roch Kabore sera encore assigné à résidence surveillée. Concernant la coopération avec la Russie pour faire face au terrorisme comme au Mali, le gouvernement se veut clair. Le Burkina n'est pas le Mali. Le Burkina doit faire comme le Burkina. Notre contexte impose une analyse profonde, a déclaré Lionel Bilgo. D'ailleurs, ce vendredi, une délégation de la CEDEAO est attendue à Ouagadougou, selon le gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, préoccupé par les violations des droits humains au Mali, dans un rapport confidentiel au Conseil de sécurité obtenu jeudi par l'AFP, il a appelé l'armée malienne et ses partenaires bilatéraux à respecter leurs obligations internationales lors des opérations antiterroristes. Ce rapport est le premier au Conseil de sécurité depuis l'annonce à la mi-février du retrait des missions militaires françaises Barkhane et européennes Takuba.
En utilisant le terme de partenaires bilatéraux, le chef de l'ONU vise implicitement, selon l'AFP, les paramilitaires russes de la société Wagner réputée proche du Kremlin. Bamako dément recourir aux mercenaires de Wagner au Mali. M. Guterres dit également que la situation des droits de l'homme est restée précaire, principalement en raison d'attaques délibérées et généralisées contre des civils par des groupes armés présumés extrémistes.
Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a appelé hier le Nigeria à contribuer à la création d'une force militaire régionale pour combattre l'insécurité créée dans la région du Sahel par des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda.
Monsieur Bazoum veut pour le Sahel le modèle de la Multinational Joint Task Force, une force armée régionale que le Nigeria a déjà aidé à mettre en place contre les militants de Boko Haram dans la région du lac Tchad et à laquelle participent notamment les militaires tchadiens et nigériens. Le président nigérien a rencontré à Abuja son homologue Muhammadu Buhari.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier à l'unanimité la création en Somalie d'une nouvelle force de maintien de la paix de l'Union africaine, baptisée ATMIS. Elle va succéder à l'actuelle AMISOM et verra ses effectifs de 20 000 militaires, policiers et civils progressivement réduits jusqu'à la fin de 2024. Jacques Aristide.
L'annonce a été faite par les Émirats arabes unis qui ont présidé le Conseil de sécurité durant tout le mois de mars. Le plan de réduction graduelle des effectifs de l'ATMIS se fera en quatre phases jusqu'à la fin de 2024. Une première réduction de 2000 militaires doit intervenir d'ici à la fin de l'année, puis plusieurs diminutions jusqu'au départ définitif de tout le personnel. Dans le même temps, le pays attend depuis plus d'un an l'élection d'un nouveau parlement et d'un nouveau président. Le mandat du chef de l'État, Mohamed Abdoulaye Mohamed, est arrivé à échéance en février dernier sans qu'il soit parvenu à tenir un scrutin. Les retards inquiètent la communauté internationale qui croit qu'il détourne l'attention des priorités comme la lutte contre les groupes djihadistes. La Somalie et sa capitale Mogadiscio sont régulièrement le théâtre d'attaques meurtrières dont deux perpétrées la semaine dernière et qui ont été revendiquées par les islamistes Chebab.
En Tunisie, le chef du Parlement, Rached Ghannouchi, a rejeté hier la décision du président Kais Saied de dissoudre l'Assemblée. Il a affirmé que l'Assemblée continuerait ses activités. Le point avec Mohamed Houmfa.
Nous considérons que le Parlement reste en activité, a déclaré Rached Ghannouchi, ajoutant que constitutionnellement, le président n'a pas le droit de le dissoudre. Cette décision est nulle et non avenue et contraire à la Constitution. Elle s'inscrit dans la continuité des décisions prises depuis le 25 juillet que nous avons rejetées et considérées comme un coup d'État, a ajouté M. Ghannouchi, chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force au Parlement et bête noire du président Kais Saied. Mais mercredi, le président Kais Saied a décidé la dissolution du Parlement 8 mois après l'avoir suspendu et limogé le gouvernement. Il a dissous en février le Conseil supérieur de la magistrature, une mesure qualifiée de nouvelle dérive autoritaire par ses détracteurs et qui a suscité des inquiétudes pour l'indépendance de la justice. Il a ensuite dévoilé une feuille de route pour sortir le pays de la crise avec des élections prévues en décembre ainsi qu'un référendum sur des amendements constitutionnels en juillet, mais une consultation populaire en ligne qu'il a lancée pour recueillir des propositions a largement été boudée par les Tunisiens.
En Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a nommé hier soir un nouveau gouvernement marqué par 15 départs et des permutations, dont le remplacement du ministre des Affaires étrangères par son ex-collègue de l'Intérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk. La nouvelle équipe compte 4 femmes, compte 6 dans la précédente.
La Cour suprême du Kenya a invalidé hier un processus de révision constitutionnelle initié par le président Uhuru Kenyatta, mettant un coup d'arrêt à ses projets à 4 mois d'élections présidentielles et législatives à fort enjeu.
Des préparatifs insuffisants, un haut responsable de Shanghai a concédé jeudi que la capitale économique chinoise n'était pas totalement prête à affronter l'actuelle flambée de Covid qui force la ville à confiner ses 25 millions d'habitants.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Quelques 1500 femmes engagées dans le commerce informel au Libéria et à la frontière avec la Sierra Leone recevront une aide de 4,2 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Les femmes représentent 65% de ce commerce transfrontalier qui souffre de revenus peu fiables, d'un manque de filets de sécurité sociale et d'autres obstacles tels que la bureaucratie, les risques pour la sécurité et la violence. Au Togo, l'essence sans plomb est passée de 505 francs CFA à 595 francs. Le gasoil a augmenté de 80 francs CFA. Le pétrole lampon est vendu à 500 francs CFA contre 400 francs auparavant. Selon le ministre du Commerce, Kodjo Adedie, cette situation est essentiellement due à l'environnement économique actuel, surtout à la guerre russo-ukrainienne. Il ajoute que l'inflation a fait saigner le budget de l'État, obligé de subventionner les nouveaux prix. Autrement, le super sans plomb se vendrait à plus de 700 francs CFA et le pétrole lampon à 800 francs CFA le litre. Pour terminer, le président américain Joe Biden promet de soulager les ménages qui payent à la pompe. Il a ordonné de puiser 1 million de barils par jour dans les réserves stratégiques de pétrole américaines pendant 6 mois. Le président estime qu'à la suite de sa décision, le prix de l'essence pourrait baisser de manière assez significative de 10 à 35 cents le gallon qui coûte aujourd'hui au-dessus de 4 dollars. Le président américain s'en est aussi pris aux compagnies pétrolières qu'il a accusées de s'enrichir aux dépens des automobilistes et d'accumuler les bénéfices au lieu d'investir dans la production.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le président de la Fédération algérienne de football, Sharaf Eddine Amara, a démissionné ce jeudi après l'élimination des Fenech face au Cameroun, brisant le rêve des Algériens d'aller à la Coupe du Monde au Qatar. L'élimination a été comme la fin d'un rêve. 10 secondes nous ont séparés de notre rêve. C'est le football, parfois il est cruel, a expliqué M. Amara. La FAF a annoncé sur son site officiel l'introduction d'un recours auprès de la FIFA et demandé à faire rejouer le match à cause de l'arbitrage qu'elle qualifie de scandaleux du Gambien Bakary Gassama. Toutefois, le président de la Fédération algérienne de foot a estimé que les chances de rejouer le match sont faibles et qu'il ne veut pas vendre des illusions aux supporters algériens. Le Cameroun s'est qualifié pour sa 8e Coupe du Monde en battant l'Algérie 2-1 après prolongation avec un but à la dernière seconde de Karl Toko Ekambi mardi à Blida. La star égyptienne Mohamed Salah sème le doute sur son avenir en équipe nationale dans une vidéo publiée sur Facebook par le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports. Le capitaine des Pharaons s'adresse à ses camarades peu après l'élimination des Pharaons. « Je suis fier d'avoir joué avec vous, c'était un honneur pour moi », déclare-t-il pendant un débriefing du match dans les vestiaires. Ses déclarations à l'imparfait ont semé le doute sur son avenir avec l'équipe nationale. Mardi, les Pharaons ont échoué à se qualifier pour le Mondial au Qatar en cédant face au Lion sénégalais de la Teranga après la séance de tir au but. Salah, premier tireur égyptien a manqué sa tentative. Le 7 février, l'Égypte a perdu la finale de la CAN contre les Sénégalais au tir au but. Salah, qui aura 30 ans au mois de juin, a débuté en équipe nationale en 2011. Les clubs de Première Ligue pourront effectuer 5 remplacements à compter de la saison 2022-2023, annonce le championnat anglais. Ces 5 changements devront être effectués à 3 reprises pendant un match, avec une possibilité supplémentaire à la mi-temps, indique la Première Ligue dans un communiqué. Les clubs anglais ont déjà expérimenté cette nouvelle règle en fin de saison 2019-2020 en raison de l'accumulation de matchs causés par la pandémie de coronavirus. Mais contrairement à d'autres championnats et compétitions européennes, la règle est ensuite revenue à 3 changements pour ne pas avantager les équipes possédant un effectif plus large.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Donc, le président américain Joe Biden a promis hier de soulager les ménages confrontés à la hausse du prix de l'essence. Il a annoncé notamment une mise à contribution sans précédent des réserves stratégiques du pays. Monsieur Biden a ordonné de puiser 1 million de barils par jour dans les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis pour 6 mois. Pour une analyse sur l'impact de cette mesure, Eric Manirakidza a joint un politologue spécialisé dans les affaires et la finance, Jean-François Seznek de la McDonough School of Business à Georgetown University.
La montée des prix, et ça laissera les autres pays qui essayent de prendre avantage des États-Unis en ce moment pendant cette crise, ça leur donnera moins d'avantages. Par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui ne veulent pas vraiment augmenter leur production, ne vont pas vraiment bénéficier plus qu'ils ne devraient de l'accroissement des prix. Donc, c'est une bonne chose. Ça va aussi faciliter la vie pour les gens. Et dans beaucoup d'États, en plus, les États diminuent les taxes sur le pétrole, sur l'essence. Donc, ça va aider un petit peu les gens d'avoir moins de dépenses tous les jours.
Quand est-ce qu'on peut sentir l'impact positif de cette mesure?
Bon, ce serait assez rapide parce qu'une fois que le pétrole est sorti des réserves, il va tout de suite dans des raffineries et normalement ça sort de la raffinerie en moins d'une semaine certainement. Et après ça peut être distribué. Donc à mon avis, ça va commencer à avoir un impact sur le marché direct des gens dans moins de 15 jours, dans une dizaine de jours peut-être.
Le président Biden est confronté à une inflation record minant sa popularité. Est-ce que le fait de puiser dans les immenses réserves de pétrole américaines, est-ce que ça va changer la courbe de la situation?
Ça va aider un petit peu. C'est sûr que le pétrole, l'énergie a une influence sur l'inflation et ça va donc empêcher à l'inflation de monter aussi vite. Ça va pas arrêter l'inflation, hein, c'est sûr, mais ça va la limiter un petit peu. Donc, politiquement parlant, c'est une bonne chose pour Biden. Mais enfin, ça ne va pas avoir vraiment un impact énorme sur l'inflation. Ça va aider, mais ce ne sera pas énorme.
Joe Biden demande aussi au Congrès d'imposer des amendes aux entreprises qui disposent des permis et des terrains nécessaires, mais qui ne les exploitent pas. Est-ce que c'est une mesure qui va alléger, disons, la souffrance des Américains?
À long terme, oui, mais c'est une discussion d'un problème qui est assez délicat parce que une des raisons pour laquelle les compagnies n'utilisent pas ces leases pour trouver du pétrole, c'est parce qu'ils sont sous la pression des démocrates de ne pas faire de drilling dans plein d'endroits parce que ça va contre la politique énergétique démocrate qui voudrait ne pas utiliser de moins en moins de pétrole. Donc, d'un côté, ils essayent d'empêcher les compagnies de pétrole de faire des trous dans la terre pour sortir du pétrole et de l'autre côté, on les critique aussi parce qu'il ne faut pas assez de trous dans la terre pour avoir du pétrole. Donc, c'est vraiment un petit peu délicat comme situation, je pense.
Mais il aura le soutien des Républicains.
Dans ce cas-là, oui, il aura le soutien des Républicains, ce qui serait et de pas mal de démocrates aussi, bien sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup de démocrates qui sont qui viennent des régions où il y a du pétrole, quand même.
Washington, la voix de l'Amérique.
Eh bien, c'était Jean-François Seznek, un politologue spécialisé dans les affaires de la finance à la McDonough School of Business de Georgetown University. Maintenant, allons au Tchad, où les diplômés chômeurs revendiquent leur intégration dans la fonction publique à travers des actions pacifiques. Ils refusent les instructions du président du Conseil militaire de la transition, qui a demandé au Premier ministre de passer par des concours pour recruter les fonctionnaires. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Gouvernement des menteurs !
Gouvernement des menteurs !
Concrétisez vos promesses !
Concrétisez vos promesses !
C'est le cri d'alarme des professionnels de l'éducation devant le ministère de l'Éducation nationale. Assis à même le sol autour d'un cercueil couvert du drapeau tchadien, mais sur la tête, ils reprennent en cœur leur doléance écrite sur les pancartes.
On n'a pas l'argent pour négocier l'intégration.
On n'a pas l'argent pour négocier l'intégration.
Parce que nous n'avons pas de parents ministres.
Parce que nous n'avons pas de parents ministres.
Parce que nous n'avons pas de parents généraux.
Parce que nous n'avons pas de parents généraux.
Parce que nous n'avons pas des armes.
Parce que nous n'avons pas des armes.
Nous sommes formés pour servir le pays.
Nous sommes formés pour servir le pays.
Non à la discrimination.
Non à la discrimination.
15 ans.
15 ans.
16 ans.
16 ans.
10 ans.
10 ans.
Très professionnel.
Très professionnel.
C'est trop.
C'est trop.
Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop.
Pour Emmanuel Mezelka, porte-parole des lauréats professionnels de l'éducation nationale en instance d'intégration, ce sont les autorités qui poussent la jeunesse à la révolte.
S'ils ne sont pas à mesure d'enterrer, n'est-ce pas, le système éducatif complètement aujourd'hui, ils ont encore une dernière chance de le réanimer en intégrant les lauréats professionnels de l'éducation, en nommant les mérités à leur place. Ce sont ceux-là qui nous ont incités aujourd'hui à cette révolution. Ils viennent encore de mettre de l'huile sur le feu en nous demandant de passer encore un notre concours pour notre intégration. Nous sommes les professionnels de l'éducation. Nous sommes formés sur un besoin. Ces autorités nous ont tant dupés.
Au moment où ces lauréats boutent les instructions du président du Conseil militaire de transition, les instituteurs bacheliers contractuels ont exprimé ce jeudi leur ras-le-bol dans les rues pour exiger 12 mois d'arrivée de salaire et leur reversement à la fonction publique. Mais ils ont été très vite dispersés par la police nationale, selon leur délégué Anissé Mbaïgodoum.
Les policiers nous ont lancé des gaz lacrymogènes. Donc on est entré au ministère de l'Éducation nationale. Ils sont entrés au sein même du ministère pour arrêter certains de nos collègues. Ils nous ont éparpillés partout, 3, 4 dans les véhicules. Ils nous ont dispersés dans des commissariats là partout. Et après, on nous demande de rentrer. Nous sommes au nombre de 1500. Aucune personne n'est reversée à la fonction publique. Nous, une fois finis maintenant dans des écoles normales, des instituteurs, on a déposé dans des écoles privées où on prenait avec nos familles en charge. Subitement, ils ont lancé ces tests-là. On pensait que ça va marcher. On a démissionné de nos écoles-là pour aller travailler pendant 2 ans d'exercice. Et là, après ce travail-là, on réclame même nos dues. C'est un problème. Et s'ils n'arrivent pas à nous satisfaire, nous allons continuer la lutte jusqu'au bout.
Une autre plateforme des diplômés en instance d'intégration à la fonction publique rejette également l'option de recrutement par voie de concours. Elle donne 10 jours au gouvernement de mettre en place la commission spéciale du recrutement comme instruit le président du Conseil militaire de transition. Au cas contraire, elle tiendra pour seul responsable le gouvernement de transition de tout ce qui adviendra. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
Enterrez-nous aujourd'hui avec le système éducatif.
Enterrez-nous aujourd'hui avec le système éducatif.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Littérature, culture et consensus sociétaux, c'est autour de ce thème qu'un rendez-vous littéraire s'est tenu hier à Dakar avec des intellectuels et leaders d'opinion tels que Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 et le célèbre universitaire sénégalais Felwine Sarr. Une rencontre qui a remis à jour certains sujets de société. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Comment faire pour que les livres soient accessibles au plus grand nombre? Comment faire pour qu'il y ait une culture de la lecture au sens large du terme? Ce sont entre autres les questions qui ont permis à Felwine Sarr de parler de la promotion des langues nationales, un sujet qu'on évoque depuis très longtemps. Pour l'universitaire sénégalais, cela passe nécessairement par leur introduction dans le système éducatif.
Il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent à souhait que lorsque les enfants sont scolarisés au début à l'école primaire dans leur langue nationale ou maternelle, ils acquièrent beaucoup plus rapidement toutes les connaissances générales de culture générale, y compris le français. C'est-à-dire qu'un enfant qui rentre à l'école en pays CRR, qui apprend d'abord en CRR l'histoire, la géographie et le français, des classes ont montré que arrivé au CM2, il a un meilleur niveau en français que celui qui a été scolarisé d'abord en français. Et là, il y a la question de la mise en œuvre de ces processus éducatifs par le biais de la volonté politique. Il y a la question de l'imaginaire des langues dominantes et des langues impériales qui doit être réglée chez nos élites.
Pour Mohamed Bougar Sarr, lauréat du prix Goncourt 2021, la question de la création en langue nationale pose beaucoup de problèmes, mais il estime cependant que c'est devenu une nécessité. Bougar Sarr, à vous-même, s'y essayez.
Je pense que c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui, véritablement, de se lancer dans cette entreprise-là. Au fond, c'est l'essentiel. On peut ne pas être d'accord sur les raisons de le faire. Je pense que ce qui compte, c'est vraiment la façon de mettre cela en œuvre. Mais j'ai toujours considéré qu'il fallait véritablement que cela s'accompagne d'une lecture, en tout cas d'une capacité à pouvoir lire ou découvrir ce qui serait écrit en langue nationale, dans ces langues nationales-là. Et c'est pour cela que depuis plusieurs années, tout ce que j'essaie de faire en langue nationale ne concernerait que les arts vivants. Vraiment, le théâtre, le chant lyrique, la poésie. Pourquoi pas?
Pour que les langues nationales aient une place de choix dans l'univers littéraire et culturel, Felioun Sarr pense qu'il est essentiel qu'il y ait une volonté politique réelle pour la matérialiser.
Investir dans de la traduction, mettre en œuvre une fiscalité adéquate sur les biens culturels, le livre ou les livres, et formuler des politiques culturelles et éducatives qui créent les structures pour créer cet écosystème-là. Ensuite, les militants, les acteurs culturels, les éditeurs, tous les éléments de l'écosystème se mettent en place, mais il faut une entité qui structure l'écosystème, qui opère des choix et qui dirige des moyens vers cette problématique-là. Et la question qu'il faut se poser, c'est quel travail à faire dans les imaginaires pour que le politique considère que c'est une action importante à entreprendre.
L'universitaire Felioun Sarr a également tenu à rappeler qu'il y a eu un travail de codification important qui a été fait vers les années 1960-1970 en dotant d'un lexique, de grammaire et de dictionnaire un certain nombre de langues nationales. Mais pour lui, ça ne suffit pas car il faut des outils didactiques, une traduction du contenu scientifique dans ces langues, l'édition d'ouvrages didactiques et scientifiques et tout un dispositif d'accompagnement. C'est Dina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Afrique du Sud, 400 réfugiés politiques congolais demandent leur rapatriement, beaucoup ayant peur à cause des attaques lancées par un groupe d'autodéfense qui accuse les étrangers en situation irrégulière d'aggraver le chômage et la criminalité dans le pays. Aujourd'hui, ils ont été manifestés devant deux entreprises à Pretoria, accusées d'utiliser de la main-d'œuvre étrangère illégale. De Johannesburg, notre correspondante Valérie Hirsch.
Depuis le mois de février, dans le cadre de l'opération Doudoula, des centaines de Sud-Africains s'en prennent aux migrants illégaux, surtout à Johannesburg. Ils chassent les vendeurs de rue étrangers et menacent de s'en prendre aux entreprises qui emploient des étrangers en situation irrégulière. Le leader de l'opération Doudoula, Nchlanchla Dlamini, explique ses objectifs.
Vous trouverez des étrangers illégaux dans la plupart des actes de criminalité. Ils occupent nos trottoirs et vendent comme ils veulent. La différence avec nous, les Sud-Africains ordinaires, c'est que nous n'avons pas assez d'argent pour soudoyer la police et les fonctionnaires qui baignent dans la corruption. Quand les fonctionnaires ne font pas le travail qu'on attend d'eux, alors les gens se soulèvent et nous le faisons dans les limites de la loi pour reprendre ce qui devrait être dans les mains des Sud-Africains, y compris les emplois non qualifiés.
Jeudi dernier, Dlamini a été arrêté à Soweto après que ses partisans aient saccagé l'intérieur d'une maison. Il a été libéré sous caution, mais il promet d'étendre son mouvement à tout le pays. Les migrants craignent un retour des violences qui ont fait des dizaines de morts dans le passé. Ils accusent le gouvernement de laxisme face à l'opération Doudoula. La réponse du ministre de l'Intérieur, Aaron Motsoaledi.
Ceux qui l'accusent de xénophobie, ce sont des gens pauvres qui se battent pour assurer leur survie. Ce conflit est entre les plus pauvres des pauvres qui s'affrontent pour leur survie. Ce n'est pas de la xénophobie parce que l'Afrique du Sud n'est pas un pays xénophobe. Les gens qui veulent nous aider doivent le faire dans les limites de la loi.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est toutefois montré plus ferme lors d'un discours prononcé le 21 mars.
The challenges of unemployment that we are facing
Le problème du chômage dans notre pays ne devrait pas nous amener à attaquer des gens d'autres pays, parce que si nous faisons cela, nous encourageons la xénophobie, l'idée que nous les haïssons et qu'ils doivent partir. Ce que nous disons, c'est que nous voulons que les migrants aient les documents officiels et que les employeurs engagent des gens qui ont leurs papiers.
En attendant, les migrants africains qui habitent dans des quartiers pauvres vivent plus que jamais dans la peur. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedudia et de Jean-Roger Bion au micro. Sims Lumami était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.